Christine de Pizan, qui est cette grande femme écrivaine, féministe et femme poète politique fin 14e, début 15e. Et voilà. Alors juste un petit truc sur les manuscrits, que j'en parle assez souvent quand même. J'en ai parlé l'année dernière, quand on avait fait les Apocalypses et puis les Book of Kells, le manuscrit irlandais. Il y a plusieurs raisons pour ça. D'abord parce que, ouais, donc ça fait quand même assez longtemps que j'enseigne l'histoire de l'art, etc. Mais pendant très longtemps, quand sur les livres d'histoire de l'art ou les livres d'art, on voyait une reproduction d'un manuscrit, une image, etc. Et c'était très difficile d'avoir des bons documents. Quand on est dans les musées, on ne voit pas de manuscrit. Même, si vous voulez, à la British Library ou British Museum, un manuscrit, il est ouvert, il est sous verre, vous avez une page. Mais en fait, il y en a des centaines, des centaines, des centaines. Et c'est vrai que la numérisation, la possibilité de scanner maintenant, et c'est très récent, c'est très récent. Ça oui, fait, fait d'abord, scanner, ça s'est déjà fait, mais mettre en ligne, c'est très récent, parce que d'abord, ce sont des gros fichiers. Et ça a ouvert, mais de façon incroyable, à mon avis, on n'a pas fini d'ailleurs de réfléchir à ça, le monde entier de toute cette culture qui s'étale sur... aller du 6e jusqu'au 14e siècle, hein, pendant presque 800 ans, il y a presque 8 siècles de manuscrits qui sont absolument prodigieux. Alors, et qui n'étaient quasiment pas consultables. D'abord, c'est fragile, c'est précieux. Souvent, il fallait des gants, etc. Il fallait justifier de pouvoir y accéder. Et maintenant, alors c'est un boulot parfois d'aller fouiller sur Internet, mais il y a des très bons sites sur lesquels on trouve des manuscrits. Alors, attention, il y en a plein qui ne sont pas enluminés, hein. Moi, ça m'est arrivé d'en ouvrir et de passer des pages et des pages et des pages. C'était du texte, du texte, du texte, du texte, du texte. Donc, si vous voulez, pour trouver parfois une enluminure, une... Alors, certains sont très riches au niveau des images et des illustrations. Alors, c'est le cas, justement, du Taquinum, on va voir, et des herbiers, à plus forte raison. Puisque, les herbiers, on va le voir, hein, y a un enjeu. Alors, se pose aussi la question, et ça d'une manière générale, du statut artistique, du manuscrit. Autant les vitraux... et ce que j'ai montré jusqu'à présent ont une destination, on va dire, de transcendance, d'accéder, de dépasser l'image pour aller vers le sens le plus élevé, le sens sacré ou le sens de la beauté chez les Grecs, etc. Donc c'est ce qu'on va dire un art majeur. Dans une bonne partie des manuscrits, par exemple les herbiers, là on pourrait dire que c'est uniquement des documents scientifiques, enfin scientifiques, le terme n'existe pas, mais... technique, de connaissance. Donc on n'est pas dans une quête de beauté, d'idéal ou de dépassement de la nature. Alors, quelle est la part artistique? C'est un peu ambigu, justement. Quelque part, c'est la périphérie du grand art. Mais, c'est là où c'est intéressant, d'un point de vue artistique, c'est qu'en fait, on est plus libre, justement. Quand vous avez la contrainte de la cathédrale, quand vous avez la contrainte de la commande, quand vous avez la contrainte de Dieu... Bah, vous êtes obligé, vous ne pouvez pas faire n'importe quoi. Donc, on peut dire que l'art est beaucoup plus soumis à des règles esthétiques, des règles de grandeur, de spiritualité, de maîtrise technique, etc. Dans les manuscrits qui ont une finalité plus modeste, un public beaucoup plus restreint, en général, un manuscrit circule de main en main et puis concerne quelques dizaines de personnes. Et ensuite, donc, il y a beaucoup plus de liberté. Ce qui fait que c'est très étonnant au niveau de l'histoire de l'art, parce que justement, dans la foule des manuscrits, la quantité de manuscrits, on trouve une diversité de pratiques qui est prodigieuse. Prodigieuse parce que c'est plus libre, tout simplement. Il y a moins d'enjeux, et donc on est souvent très très surpris. Et puis, ça révèle une part beaucoup plus intime de la société. On va voir un petit peu justement avec le Taquinum, et c'est ça qui est intéressant avec le Taquinum à proprement parler. Alors, je vais y revenir, mais je voulais vous justifier un petit peu cette idée-là. Alors, la dernière fois, j'avais commencé avec les herbiers, pour dire que ce qu'on appelle les Dioscorides, alors Dioscorides ou Dioscorides, donc c'est un grec, je crois, du 2e ou 3e siècle, qui circule dans l'Empire romain, et qui établit cette espèce de bilan des plantes, et qui va être copié, recopié pendant très longtemps, qui fait un peu qui est la référence en termes, on va dire, de botanique. Alors les termes n'existent pas encore, mais c'est un recensement des plantes. Alors, je vous avais montré la dernière fois à proprement.
Non.
Ça doit être accablé.
J'étais pas arrivé là ?
Non.
Ah bah alors, là non plus ? Ah bah alors, je plane complètement.
Mais non.
Ça non plus ?
Non.
Ah bon. D'accord. Bon. D'accord, voilà, attendez. On était encore aux vitraux. Voilà. Mais je vous avais montré les professions.
Oui.
Alors, en fait, il y a un lien direct, parce que j'ai fait en sorte qu'il y ait un lien direct. Oui, j'ai monté donateur et corporation. Voilà. Et on avait vu le vitrail aussi des jours et du zodiaque. Oui, on l'a vu. Et ça, je vous ai montré les vitraux des professions et des corporations. Ok. Ah oui, donc j'avais fini là-dessus. Donc, alors, ben, la petite introduction que j'ai faite sur les manuscrits, ça va, puisqu'effectivement, ça fonctionne bien. Donc, ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle le Taquinum Sanitatis. Taquinum Sanitatis, je crois que c'est le traité du bien-vivre, de la santé, en fait. À l'origine, le vrai Taquinum est écrit par un certain Ibn al-Butlan, B-U-T-L-A-N. Et voilà tout son nom, Al-Mukhtar bin al-Hassan bin al-Butlan, Taquim al-Siha, je ne sais pas si je prononce bien, et je crois que ça veut dire aussi le traité de la santé ou du savoir-vivre. Alors, il est plus ancien, je crois qu'il date du XIe siècle, et ça, c'est un des rares documents que l'on ait de cette époque-là. Alors, il est écrit évidemment en alphabet arabe, et je pense que la langue, c'est aussi de l'arabe s'il était irakien, hein, parce qu'il y a beaucoup de manuscrits qu'on va trouver en écriture arabe, mais ça peut être du persan, ça peut être du turc, ça peut être de l'arabe, etc. Et c'est un texte, justement, qui décrit non seulement les plantes, et c'est là où c'est différent du Dioscorique qu'on va voir tout à l'heure, mais y compris leur usage, au sens large, la façon dont on va les cultiver, les récolter, en user, etc. Donc il y a tout un travail autour des plantes, du jardin, de leur usage, et y compris autour du jardin, il va y avoir aussi la vie de la cité avec les métiers, les boutiques, c'est ça qui revient aussi aux corporations, on va le voir, etc. Et donc d'une certaine manière, c'est comment vivre sur Terre avec ce que la nature donne, comment on doit les transformer, comment on doit s'adapter aux saisons, au climat, et comment est-ce que la vie doit s'ordonner. Donc c'est quelque chose qui est totalement profane, qui est lié uniquement à des connaissances de la nature et de ses produits, et du travail humain. Alors c'est réparti en plusieurs sections, plusieurs cases, plusieurs phases, etc. Et ce que l'on va voir dans les minutes qui suivent, ça va être la traduction, qui elle date du XIVe siècle, et XVe siècle, et ce manuscrit, ce texte-là, aura une certaine réputation, puisqu'il va être copié plusieurs fois, recopié, et d'un point de vue, on va dire, sociétal, il est intéressant, et d'un point de vue artistique, vous allez voir, ça nous révèle beaucoup de choses sur la vie, en fait, et c'est un petit peu le sujet autour du Taquinum. J'ai abordé aussi la question du quotidien, de la vie, du rapport à la nature, au XIVe, au XVe siècle, et un petit peu aussi, comment est-ce que ce rapport-là, on le repère dans les manuscrits précédents, contemporains, etc. Alors voilà donc, à l'origine, c'est cela. Hein. Voilà donc quelques exemples. Alors, l'idée de partition, effectivement, alors je ne lis pas ça, mais c'est vraisemblablement lié aux saisons, aux semaines, etc. Donc il y a cette idée du partage, et cette idée de la structure qu'on voyait aussi même dans le vitrail. Hein. Comment est-ce que le monde, aussi vaste soit-il, eh bien, on peut y trouver un ordre. Ça, c'est quelque chose qui est commun et qui est une préoccupation depuis des siècles. J'ai trouvé quel est l'ordre du monde. Est-ce qu'il y a un ordre dans le monde? Est-ce qu'il y a des règles? Est-ce qu'il y a des lois? Alors, le temps, les saisons, les années, les étoiles, etc. Et puis, les heures du jour, et puis tout à coup, même le phénomène même de la nature, croissance, décroissance, fruits, etc., récolte. Et donc, comment est-ce que les humains peuvent se fondre là-dedans? Alors, c'est là où c'est quand même très notable, c'est que c'est essentiellement lié aux plantes plus qu'aux animaux. De ce point de vue-là, on voit bien qu'on est très très loin de tout ce qui pouvait être chasseur-cueilleur ou pastoralisme, puisque tout d'un coup, là, on est vraiment qui échappe un peu plus à la cosmologie, on peut dire, et là on est vraiment autour des plantes et du jardin, dans quelque chose de beaucoup plus terrestre, mesurable, contrôlable. Alors, je continue. Alors, des manuscrits en écriture arabe, il y en a beaucoup, ceux-là du XIIe siècle, hein, et alors ça c'est ce qu'on appelle des herbiers, et ces herbiers y compris en écriture arabe, sont très souvent des variantes du Dioscoride, le fameux Dioscoride, tiré de cet écrivain grec. Hein, donc on va les trouver en grec, en latin, en arabe, par exemple, et dans lesquels vous avez la représentation des plantes ici. D'ailleurs, ça montre bien que les interdits de figuration dans le monde musulman sont très relatifs, parce qu'on trouve beaucoup de manuscrits du monde musulman avec des illustrations. Alors là, on peut dire qu'il y a un prétexte scientifique, mais on en trouvera d'autres qui sont descriptions des merveilles du monde, y compris des légendes, même de la d'une partie de la Bible qui intéresse le Coran. On va trouver même des fables, on trouve des fables illustrées en langue arabe, hein, des fables de petits chacals, là, Kalila et Dimna, etc. Donc, inspiré d'Ésope, vous avez une circulation des manuscrits qui est assez remarquable, et y compris une souplesse, en fait, même sur les interdits. Alors, le taquino, en fait, ça sera ça. Hein, ça sera ça, mais avant de vous le montrer un petit peu, pas de manière exhaustive, mais presque, je reviens sur les herbiers. Alors, juste pour vous montrer... Voilà, il y a tout ça, hein, donc tout ça à voir. Donc, ça vous montre un petit peu. Voilà, ça c'est un seul manuscrit, hein, et encore, vous n'avez qu'une partie. Hein, alors, ce qui est extraordinaire, c'est qu'on a accès à ça, mais là, c'est pas possible. C'est pas possible, on a accès, et on peut feuilleter les livres, zoomer, agrandir, c'est prodigieux. Hein, donc, ça, on découvre réellement. Alors, pour le moment, il n'y a pas encore de grands livres d'historiens d'art sur cette richesse. C'est 8 siècles hein, d'œuvres très, très complexes. Souvent, ce qu'on va voir du taquinum, d'ailleurs, si vous tapez taquinum, vous allez trouver parfois des sites de santé par les plantes, ou des choses comme ça, ou de pharmacopée, etc., qui vont utiliser certaines des images pour illustrer leurs produits, mais vous ne verrez jamais l'ensemble de ces manuscrits. Hein. Moi, il a fallu que je fouille, que je cherche, j'ai réussi à trouver dans les bibliothèques, etc., et puis tout récupérer, c'est long, hein. Ouvrir, enregistrer. Donc je fais ça, mais... C'est mon côté moine copiste, mais à manière moderne, c'est avec ordinateur. Mais on n'est pas loin de ça. Alors, revenons un peu aux herbiers. Donc, le fameux Dioscoride, alors, ou Dioscorides, je ne sais pas. Le plus ancienne version que l'on ait, c'est celui de Vienne. Hein, celui de Vienne, donc Dioscoride de Vienne, 6e siècle. Alors, vous allez voir qu'il y a aussi des enjeux quand même artistiques au niveau de l'herbier. Et ça, je vais vous en parler. Alors, dans le Dioscoride, il n'y a pas que les plantes, il y a aussi les animaux. On voit ici les oiseaux, hein, donc, qui sont représentés le côté naturaliste. Ce qui est très clair au VIe siècle à Vienne et dans le monde grec, c'est que, c'est assez complexe à voir, mais dans le monde grec, ce qui domine au niveau du type de représentation, ça reste pendant des siècles, malgré tout, les représentations grecques et romaines qu'on voit dans les mosaïques, c'est-à-dire très naturalistes. Très naturalistes. Alors que dans les vitraux, qui sont plus récents, on a une vision symboliste ou symbolique des figures, et on n'est pas du tout dans le naturalisme, on est vraiment dans le sacré, ce qui fait qu'on s'écarte de la représentation naturaliste. Mais presque toutes les œuvres qui viennent du monde gréco-romain sont très inspirées encore par une tradition très très forte du naturalisme qui a fait florès. Regardez les mosaïques gréco-romaines, l'année dernière on en a vu, jusque 4e, 5e, 6e siècle, ce sont des choses très importantes. Donc, vous voyez, c'est assez drôle de voir justement qu'il y a une tradition, on va dire, nordique, gothique, plus abstraite, plus idéale, on va dire. Et puis, vous avez une tradition naturaliste que l'on trouve, par exemple, dans ce manuscrit qui date du 6e siècle. Et là aussi, alors ce manuscrit, d'ailleurs, et ce qui est assez drôle, c'est que dans ce manuscrit, vous avez une sorte de justification religieuse quand même, bien que ça soit un texte grec, de la représentation, hein, c'est le droit de représenter, puisqu'on voit ici des peintres en train de peindre, et ici quelqu'un en train de dessiner. Hein, donc ça c'est quelque chose là, sur lequel on pourra revenir. Hein, bon, ça je passe. Et alors voilà, le fameux Dioscoride de Vienne. Et d'ailleurs vous voyez qu'il est traduit en arabe. Hein, donc c'est un texte latin qui vient par le monde grec. Et vous avez les traductions alors, en alphabet arabe. Je sais pas si c'est là. Alors, ce que je voulais dire au niveau du le mode de représentation, et ce qui est typique pour les herbiers et très intéressant, c'est que représenter Dieu, Jésus, Marie, on nous vient de transposer. On ne les connaît pas, on n'a pas vu, et puis c'est pas n'importe qui. Hein, donc faut avoir une sorte d'idée de la manière de représenter. Une plante, si on la représente, c'est pour la connaissance. Donc la description prime. Or, une plante en plus, l'intérêt, c'est que c'est un volume relatif. Parce qu'on peut très bien la mettre à plat. Ce sont des lignes, des surfaces. Or, le papier, ce sont des lignes et des surfaces aussi. Donc, si vous voulez, vous avez une identité entre la plante mise à plat et sa représentation, où on n'est pas loin du décalque ou du pochoir ou de la prise de notes directe. Donc, si vous voulez, l'écart entre l'objet représenté et sa représentation est minime. Et là, c'est très intéressant, alors que vous représentez un corps, c'est un volume, avec la lumière, etc. Et en plus, le corps est toujours dans un contexte. Une plante, on peut très bien la décontexter, récupérer ses racines et la voir toute seule sur un fond blanc. Donc si vous voulez, vous avez du point de vue de la représentation quelque chose qui est intéressant, c'est qu'il n'y a aucune... On présente ça, on ne peut pas du tout savoir ni quelle date ni rien. Il y a une sorte d'évidence de ce mode de représentation. Et c'est ça qui est étonnant avec les herbiers, c'est que justement, très difficile à dater. Ils sont très difficiles à dater parce qu'on ne voit pas, il n'y a pas de style, si vous voulez, dans la représentation. Là, on voit bien toujours dans ce Dioscuride de Vienne, ici il s'agit d'une plante vraisemblablement marine, on dirait un goémon avec des fucus, avec des petites alvéoles, et il y a ici, on dirait un dieu Neptune ou alors un triton, je ne sais pas quoi, donc vraisemblablement pour indiquer la dimension marine, et toujours des petits commentaires ici en arabe, et voilà. Donc ça c'est le Dioscuride de Vienne. Je passe. Alors ça, c'est un Dioscoride du 8e, le traité du 6e siècle, du 8e siècle, celui-ci en grec. Hein, mais regardez, lui aussi traduit en arabe, d'ailleurs. Hein, là, on a des petites notations en alphabet arabe. Et ici, en grec. Et là, on retrouve, alors, un peu simplifié, parce que, si vous voulez, aussi, le destin de ce manuscrit n'est pas un objet sacré. Alors, dans les manuscrits... On considère maintenant, c'est une sorte de classification un peu rigolote, il y a les manuscrits de Lutrin, par exemple, ce qu'on a vu, les Apocalypses ou le Book of Kells, qui sont des livres précieux, sacrés, très très denses, très riches, qui ont vraiment une vocation de liturgie et de prière, avec de l'or, etc. Ils ne bougent pas. C'est des grands manuscrits qui ne sortent pas de l'Église et qui sont consultés souvent lors de cérémonies. Vous avez les manuscrits de Bezas, qui sont là peut-être des petits manuscrits qui ont une vocation peut-être d'usage. Et une bonne partie des herbiers, on peut très bien imaginer que ce sont des manuscrits de Bezas. On les met dans le sac. On les met dans le sac, on sort avec, on regarde, on herborise, etc. Alors, où il y a plusieurs traités. Il y a des traités d'hypiatrie, un traité d'hypiatrie grec sur les chevaux, on peut imaginer le vétérinaire de l'époque en train de regarder son cheval avec le manuscrit en. Et puis vous avez aussi les manuscrits de mains ou de paumes, par exemple justement les livres, les romans, les romans de la table ronde, les livres d'heures, les livres de prières, qui eux sont des livres de mains ou de paumes. Et dans ce cas-là, relativement précieuses, mais qui vont être individualisées. Donc, si vous voulez, vous avez aussi des catégories variables de manuscrits. Alors ça, on peut supposer que les Dioscorides sont des manuscrits, la plupart d'entre eux, alors vous allez voir, certains sont plus ou moins précieux, de Bezas. D'ailleurs, on voit, le fait d'écrire dessus, c'est un usage, quoi. Ils se sont transmis de main en main, ils sont un peu usés, et d'ailleurs, c'est émouvant de voir, justement, les langues qui, justement, circulent aussi. Là, je zoome, même des commentaires, parce que c'est comme Wikipédia, chacun rajoute son truc, Je ne sais pas ce que c'est là, mais chardon, sans doute, chardon. Alors là, ce que je vous disais, c'est que la plante, elle est décontextée, elle est vraiment mise à plat, racines, fruits, feuilles, efflorescences, etc. Alors moi, là, il faudrait lire le grec ancien pour le regarder, pour comprendre. Alors ça, vous avez un Dioscoride, lui aussi, grec, du 8e siècle aussi, un peu plus élaboré, plus raffiné, tant au niveau de l'écriture que du type de représentation, puisque là, par exemple, vous avez des effets de modelé qui sont remarquables. Dans l'autre, on avait une sorte de mise à plat. Là, on peut imaginer que, sur le même thème, vous avez un objet un peu plus précieux, parce que la qualité de l'écriture et de la représentation est plus soignée, plus poussée. Ça, on dirait du fenouil, je ne sais pas. Altinon, je ne sais pas quoi. Donc, voilà. Alors ici, c'est en langue latine, d'ailleurs, à côté. Alors ceci, on voit l'usure. Voilà encore, l'ambroisie. Ici. Et alors là, vous avez la mandragore, la fameuse mandragore, très intéressante, et j'ai fait exprès de vous présenter plusieurs fois la mandragore, avec des racines masculines ou féminines, souvent avec toutes les légendes qu'il y a autour de la mandragore, jusqu'à Harry Potter. Moi, quand je montre ça, les avis, je dis, comme de Harry Potter, mais c'est vrai que c'est... Alors ça, c'est une plante assez... on verra même dans, son, dans d'autres situations, elle est représentée de façon assez intéressante. Hein, donc mandragore, alors, elle est sans doute féminine et masculine. Et voilà, alors je passe un peu, parce que je ne vais pas te les montrer tous. Ça, c'est toujours une énergie. Alors, ce qui est vraiment notable, c'est que justement, en même temps, vous avez à chaque fois, d'un point de vue artistique, la mise en scène de chaque plante est un enjeu. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on va représenter la plante dans la page, hein. Surtout que certaines se mettent à plat facilement, mais le buisson, là, de Osikonos, je sais pas quoi, là, à chaque fois, vous avez des répartitions différentes et des variations sur la surface, la ligne et le volume. Et c'est un truc tout bête, hein, mais écrire, c'est tracer des lignes. Et les plantes, aussi le passage de l'écriture à la description des plantes, hein, par les lignes, se fait de façon aussi assez naturelle. Donc c'est quelque chose qui, là, vous avez vu des livres qui sont très bien mis en page. Mais alors après, vous avez des inventions aussi de ce genre qu'on verra assez souvent, beaucoup plus libres, où il y a du jeu, justement, sur la disposition, l'écriture, et puis tout d'un coup, l'occupation vraiment esthétique de la plage, la composition esthétique. Alors, on parle d'arabesque en termes d'écriture, et là, effectivement, cette façon d'occuper la page est aussi assez remarquable. Alors là, on imagine, hein, le même manuscrit, mais copié plus simplement. Donc, vous voyez aussi, il y a des gammes, hein, il y a des types de représentations variables, et là, on en voit un exemple. Alors, voilà encore un manuscrit en langue arabe, enfin, en écriture arabe. Madame, vous voyez la différence, vous savez lire. Vous
savez, oui, mais là, c'est trop cursif.
C'est trop cursif, d'accord.
En principe, sur l'écriture moderne, je vois la différence.
Oui, oui, ah oui, d'accord.
Entre le persan et...
Oui, oui, et là...
Là, c'est...
Et là...
Ça, c'est sûr, c'est de l'arabe.
Ah oui, bab, c'est ça. Jouf, je ne sais pas quoi. Ça, je voulais montrer. Là aussi. Là encore. Donc, vous voyez... Il y a une diversité. Alors, ça, c'est intéressant, parce qu'on voit bien que, justement, ça draine tout le bassin méditerranéen très, très largement, hein, et que tout circule de façon remarquable, et qu'il y a... c'est drôle, on peut considérer qu'il n'y a pas ni progrès, ni influence, c'est vraiment... là où c'est intéressant d'un point de vue artistique aussi, c'est une approche spontanée des plantes, puisque il n'y a pas une question très complexe, si ce n'est que l'organisation de la maquette, en fait, du livre, c'est-à-dire comment on va disposer la plante. Encore, les arbres. Alors celui-ci c'est un manuscrit en turc, en fait, mais écrit en grec, mais de turc. En turc. Alors là, ça nous approche un peu plus du taquinum, c'est que vous avez la plante, mais vous avez aussi beaucoup de choses qui y sont associées. Jusqu'à présent, dans l'herbier, on va dire que c'est essentiellement la plante elle-même qui est représentée, et très peu de commentaires ou associés. Par contre, dans certains manuscrits autour des plantes, vous allez avoir des pratiques. Vous allez avoir des pratiques, des légendes, des contes, des comportements humains ou animaux, ou y compris, là, vous avez des instruments, sans doute d'usage des plantes représentées. Et y compris, parfois, là, vous avez des... Alors ça date du 9e siècle. Hein, donc, pasteur se promenant, effectivement, dans la nature, dans les herbes, etc. Alors là, on voit bien, en tant que tradition turque chrétienne, c'est-à-dire... Constantinople ou byzantine, on est encore dans une représentation cette fois-ci assez naturaliste. Hein, pensez aux représentations du 9e siècle en Europe occidentale, on n'est pas du tout dans ce type de représentation. Donc là aussi, les manuscrits nous montrent une diversité incroyable. Sans compter que dans l'art byzantin, le type de représentation n'est pas comme ça. On a toujours des fonds dorés, des personnages hiératiques. Là, on a quelqu'un qui est inscrit dans la nature, avec un ciel, avec un modelé sur le corps. Et effectivement, il est dans l'espace, on n'est pas coupé du monde, etc. Alors voilà encore des scènes, hein, ici paysan entrant dans un jardin, hein, avec ici un serpent, des histoires qui se racontent, là des légendes, avec ici des animaux sous-marins, donc là on est avec des légendes ici, cette fois-ci gréco-romaines, l'idée des titans, donc on voit bien qu'autour du texte sur la nature, vous avez des légendes qui s'y associent. Là encore, alors je crois que ce texte-là s'appelle le Nicandre, N-I-C-A-N-D-R-E, mais à chaque fois, vous voyez la plante et des textes et des éléments de narration autour. Et là, on retrouve toujours dans le même document cette fois-ci, le rapport, on va dire, quelque chose qui nous rapproche beaucoup plus de l'herbier classique. Et là encore, cette fois-ci, avec les animaux. Alors, bon, ça, je passe un peu les traités de médecine. Ah oui, non, enfin, je vous les montre quand même, enfin, on y reviendra. On a quand même au XIIe siècle, par exemple, dans les manuscrits, cette fois-ci occidentaux, il y a plusieurs traités de médecine, parce que, j'ai abordé ça la dernière fois, les manuscrits, on en a parlé à propos des cathédrales et des chantiers de cathédrales, il n'y a pas de traité des pratiques artisanales. Et on considère que médecine, herboristerie, hippiatrie, c'est s'occuper des chevaux, s'occuper des plantes, s'occuper de la médecine, on verra s'occuper de la chasse, ce sont au contraire des activités qui sont soit nobles, soit savantes. Ce ne sont pas considérées comme des savoir-faire artisanaux. Les savoir-faire artisanaux de confrérie ne produisent aucun manuscrit. Et c'est d'autant plus étonnant qu'on voit bien que ce n'est pas du tout une question ni de maladresse, ni de statut sacré de l'art, parce que, faut dire qu'il y a un herbier, mais avoir le savoir des plantes, le savoir de la médecine, où on verra s'occuper des chevaux. Les chevaux, avoir des chevaux, c'est la chevalerie. C'est-à-dire que c'est une activité noble. La chasse aussi, c'est une activité noble. Et tout ce qui est aussi, j'ai des manuscrits entiers d'héraldique, ça aussi, alors là, vous avez des détails incroyables sur l'héraldique, où les combats corps à corps, ce sont des activités de la noblesse ou des classes supérieures. Tout ce qui concerne des classes, on va dire, d'artisans, ouvriers, etc., ou paysans, n'ont pas accès aux manuscrits ou ne produisent pas de manuscrits, mais ça, on le voyait aussi, c'est un savoir oral qui se transmet de maître à élève, de groupe à groupe, etc. Donc c'est assez marrant aussi de voir le statut du savoir, comment est-ce qu'il circule de façon bien particulière. Alors le cas un peu exceptionnel, c'est dans la cathédrale de Chartres, avec les vitraux des professions. Mais c'est plus une évocation du métier qu'un descriptif précis. Quand on voit qu'il y a des centaines de pages sur les plantes ou sur la médecine, là, on voit que c'est un enjeu différent. Alors là aussi, sur la médecine, vous avez des lavements, vous avez tout ce qu'on veut, la bouche, etc., les maladies des testicules, l'analyse des urines ou du sang, c'est assez rigolo. On voit qu'il y a une connaissance, et là, c'est la chose qui est importante. Alors ça, c'est un herbe. Alors, j'ai fait médecine, puisque médecine et plantes vont se rejoindre aussi. Là, c'est un Medical Missionary Library. C'est une compilation médicale des savoirs à la fois des herbiers et des traités de médecine qui vont rapprocher effectivement les plantes de la santé du corps et la façon dont on peut les rejoindre. Donc vous allez retrouver, là encore, on retrouve encore le chardon, etc. On trouve des légendes ici. Alors ça, c'est des légendes sur la vie et la mort. Ça, c'est l'oiseau, j'ai oublié que ça s'appelle le calandre, bref. L'oiseau qui... Ça, ce sont des légendes. Cet oiseau-là, j'ai oublié son nom, je crois que c'est pas calandre, bref. Si on dit que cet oiseau-là, si on le présente devant un malade, s'il tourne la tête vers le malade va guérir. S'il détourne la tête, le malade va mourir. Voilà. Donc, cet oiseau-là est associé à la guérison, à la maladie. Là aussi, vous avez, je crois que c'est l'aspic. Un aspic qui est considéré comme dangereux, mais donc qu'on peut utiliser pour la médecine, etc. Mais on va le retrouver auprès d'une certaine plante, etc. Donc, il y a, on va dire, des savoirs qui essaient de se constituer, de se transmettre. Alors là, vous retrouvez d'ailleurs la mandragore encore, cette fois-ci en figure féminine. Et on va retrouver, là encore, alors ça, des textes, l'utilisation des couleurs. Et là, pleine page, avec une grâce. Alors ça, c'est un herbier plus récent, avec y compris table des matières, une liberté dans l'occupation de l'espace qui est très belle, plus délicat. Donc celui-là est du XIIIe siècle, asphodèle et ail. Ici, on retrouve ici quelque chose qui est... Alors là, j'ai le document de bonne qualité, vous avez vu. C'est bien. Là, on va retrouver encore du XIVe siècle en écriture arabe. Là encore. Alors celui-ci est du XIVe siècle. Alors là, on voit bien, si vous voulez, on s'approche de la Renaissance aussi, c'est-à-dire la représentation plus naturaliste, plus poussée avec les modèles et les dégradés. Mais là, il s'agit aussi de, c'est pas n'importe quoi, cet herbier qui s'appelle le sarapion, je crois, un herbier italien. On voit au niveau de l'écriture, de la représentation, c'est un herbier aussi destiné sans doute à un prince ou à une duchesse ou à des aristocrates. Parce que ça aussi, ça dit pas mal de choses. C'est-à-dire que l'herbier peut être à destination de celui qui va en user, l'herboriste ou homme ou femme, mais c'est aussi une représentation du monde, de la beauté du monde, de la diversité du monde. C'est-à-dire qu'il y a une dimension esthétique. Et on le voit ici, dans l'occupation des pages, d'un coup, ça devient effectivement quelque chose de plaisant à regarder pour soi. C'est-à-dire qu'il y a une diversité, justement, de page en page. Aucune page n'est semblable, puisque la diversité du monde est aussi un spectacle. Alors ça, c'est assez proche de la Renaissance, c'est que d'un coup, la diversité du monde est un spectacle que l'on peut contempler avec plaisir, au-delà même de la science. Et notamment cet herbier-là, il est particulièrement notable pour cela. Regardez, justement, chaque plante devient une véritable représentation, une véritable poésie, hein, une façon aussi propre d'occuper l'espace de la page. Et là, on est au-delà de l'herbier de Besace, si vous voulez. Hein. Alors ça, c'est la British Library. Alors, c'est de Sarapion le Jeune, hein, et c'est la transcription. Donc, vous voyez que... Et là encore, hein, ça, c'est un autre, c'est le Manfredus de Monte Imperialis, etc. Et là encore, Imperiali, c'est aussi un herbier assez connu, mais à destination, sans doute, de personnages importants qui vont le regarder comme une œuvre. Hein, et là encore. Et alors là, c'est vraiment très notable, c'est d'un coup le jeu de transparence. Alors vous retrouvez encore l'aspic ici, avec les lettrines, les superpositions, comme par exemple ici, hein, la façon dont les racines vont croiser le texte et prendre de plus en plus de place. Une articulation absolument magnifique. Alors là, c'est juste un extrait, il y a à peu près 400 illustrations. Hein. Donc moi, j'ai presque tous les trucs, mais c'est prodigieux, parce que justement, ça montre une invention purement plastique, et c'est là où on atteint quelque chose qui dépasse la science descriptive, parce qu'on a des préoccupations esthétiques de distraction, au bon sens du terme, hein, d'admiration et de plaisir de la contemplation du monde. Et là encore, et en plus, et c'est très juste, d'un point de vue y compris botanique, c'est-à-dire que c'est ça, n'importe quel botaniste le reconnaît ça de façon très très claire, même sans le texte. Le coquelicot, le racine alors des rhizomes, les oignons, les bulbes, tout est représenté à chaque fois. Alors là, vous avez aussi quelque chose qui va nous rapprocher du daplenum, c'est la cueillette. La cueillette, hein, la façon dont on doit effectivement cueillir les fruits. Une fois qu'on a les plantes, il y a les comportements qui sont adjoints. Et on va voir ça un peu plus tout à l'heure. Alors là encore, parfois de temps en temps, des références aux animaux qui sont associés. On retrouve ici la mandragore, mais alors de façon un petit peu plus drôle, puisque cette fois-ci, elle est complètement anthropomorphique, hein, et les détails sont notés. Alors vous avez, là j'essaie de vous montrer les extrêmes, c'est-à-dire que vous avez certains qui vont pousser très très loin en associant des légendes, la représentation, l'élégance, et vous en avez, comme celui-ci, c'est le livre des herbes, c'est un herbier allemand. Alors lui, il est extrêmement synthétique, on s'approche presque du schéma, il s'agit d'aller à l'essentiel pour comprendre les plantes. Alors là, il est très drôle parce qu'il est très très simple, il n'y a pas de texte, et on est dans la représentation, clac, clac, il y a le cas, mais... Regardez, le cadre est soigné. Regardez les couleurs sur le cadre. Et là, vous avez, alors, Engel, je ne sais pas ce que c'est ensuite, mais la plante est toujours représentée, avec un petit souci, compris presque de fenêtre, voilà, terre, etc. Et le livre des herbes, il est très beau. Alors, il y en a plein. Il est très beau dans sa simplicité. Hein, et voilà. Donc, vous voyez que ça... Et alors, vous trouvez encore la mandragore. La mandragore, on la retrouve. Alors j'ai fait un peu exprès de chaque fois la mettre pour qu'il y ait un point de repère de manuscrit à manuscrit. On dit que la mandragore, alors attendez, il faut pour l'arracher, c'est un chien qui peut tirer la mandragore parce que la mandragore pousse des cris et qui peuvent faire très mal aux oreilles. Donc pour arracher la mandragore, il faut que ce soit un animal qui le tire parce que sinon les cris que pousse la mandragore sont tellement insupportables qu'on ne peut pas l'arracher soi-même. Donc on l'a fait arracher par un animal. Donc très souvent, vous voyez la mandragore avec un chien attaché ou quelqu'un qui se bouche les oreilles. On verra d'autres plus tard. Alors là, on retrouve, mais ça je vous l'ai déjà montré. Ah non, j'étais fini. Alors, vous voyez un petit peu, là, c'est un petit parcours des herbiers et des variations possibles autour du thème des herbiers. Alors, on a vu que dans l'herbier simple, il y avait déjà des enjeux, on va dire, de représentation, de mise en page, d'association avec des comportements. Alors, le daquinum, allons-y maintenant. On va le feuilleter, là. Parce qu'il y a, je ne sais pas combien de pages. C'est un manuscrit. Alors, celui-ci, je vous en montrerai plusieurs. Traduit en latin. Il y en a un qui est en latin et en allemand. Et puis, vous verrez, il y en a un autre qui est un peu particulier et qui est aussi très, très notable. Alors, il y a les plantes, mais je vous ai dit, autour de la plante, il y a aussi donc, il y a le jardin, la consommation, la croissance de la plante, le jardin, sa récolte, mais aussi son usage. Et au-delà de l'usage, comment... Eh bien, les commerces, presque tous, c'est des commerces de bouche. Presque, ce qu'on va voir, ça va être aussi des commerces de bouche. Alors, on est loin de la plante, mais on fait la liaison, si vous voulez, avec les métiers aussi de la cathédrale de Chartres. Parce que là, on va voir les métiers qui sont décrits. Et alors, avec beaucoup de précision. Marchand de salaison. Donc ça, c'est vraiment... alors, c'est représenté avec force détail. Vous avez des éléments d'ombre et de lumière. Une perspective qu'on appelle empirique, c'est-à-dire elle n'est pas juste d'un point de vue... C'est pas la perspective chronique, mais vous avez une représentation cette fois-ci en profondeur. Ce qu'on trouve, alors que dans les herbiers, si vous avez la plante, voilà, elle est là, presque mise à plat. Peut-être un léger dégradé qui va donner du volume, mais là, on a la représentation de l'espace en profondeur. Alors, ici, justement, on est typique, justement, de la récolte des pois chiches. Vous savez, ça donne, ce qui est important, c'est un, ça donne de l'importance à toutes ces activités du jardin, à moins de petites choses. Non seulement est représenté, mais ce qui est typique du Tacuinum Sanitatis, c'est pour ça aussi que je le montre, c'est qu'à presque à chaque fois, vous avez un homme et une femme dans le jardin. Alors que la tradition biblique dissociait bien les rôles, avec Adam au champ qui laboure, et Ève qui file la quenouille dans la maison. Et là, vous avez dans le Tacuinum quelque chose d'assez notable, et vous le verrez, c'est pas du tout hasard. Et ensuite, ils sont assez élégants. C'est pas du tout... Ils récoltent les pois chiches, mais on n'est pas du tout dans l'idée d'une paysannerie pauvre, misérable, etc. Vous avez quelque chose qui est harmonieux. Récolter les pois chiches, c'est beau, c'est élégant. Ça peut même être un jeu entre l'homme et la femme, de discussion, un moment de bien-être. Et c'est en ce sens-là aussi que jardiner, récolter, vivre au quotidien, vivre sur la terre, peut être tout à fait harmonieux. Et y compris commercer, échanger. Là, par exemple, c'est... dans les aliments, c'est la tête. Comment est-ce qu'on peut faire varier, accommoder les têtes ? La tête de ceci, tête de cela. Là, vous avez les tripes. Comment est-ce qu'on va... Alors là, c'est la femme qui cuisine, etc. Mais ils discutent entre eux, etc. Accommoder les tripes. Donc c'est très précis. C'est que vraiment, la poule. À chaque fois, vous... Mais c'est... Tout est... Alors là, on retrouve un petit peu l'esprit de l'herbier, c'est de tout décrire. Mais cette fois-ci, il y a la nature, mais il y a aussi la nature et les activités humaines, mais qui sont représentées avec la même simplicité, la même exhaustivité. Alors, c'est une tradition un peu... Et vous avez même, regardez, le chien là, derrière, en train de manger son truc. Là, vous avez hommes s'entretenant, hommes et femmes. Alors là, elle allaite, elle papote, ils discutent auprès du feu, quelque chose qui est très touchant. Et là, hommes et femmes sont ensemble... Et vous avez le bien-vivre, effectivement, c'est l'harmonie, au sens strict. Vivre ensemble, dans un même lieu, autour des activités essentielles. Et ce qui est assez stupéfiant, c'est qu'on est très loin de toute divinité, là. Il y a vraiment une sorte de sagesse populaire qui s'exprime dans ce manuscrit, ce qui est assez rare, parce que les manuscrits, c'est quand même dédié à ceux qui savent lire, écrit par ceux qui savent écrire et lire, et c'est précieux et cher. Donc vous voyez que tout d'un coup, il y a une culture populaire qui arrive jusqu'au manuscrit, comme celui-ci. Là, par exemple, récolte de l'anis. Et là encore, l'homme et la femme sont ensemble dans le jardin, au bon moment. Et vous avez en même temps les qualités. Parce que si vous regardez bien, vous avez presque toutes les étapes de la plante, à chaque fois. À quelque chose près, c'est représenté comme ça. Donc, l'anis. Pourquoi est-ce que... Ah, ça, c'est la récolte des œufs d'oie. Là, le céleri. Donc, encore, l'homme et la femme ensemble. Alors, âgés, c'est-à-dire que là aussi, c'est-à-dire que vous avez des jeunes, vous avez des familles, vous avez des gens âgés. C'est-à-dire que là encore, une description d'une humanité dans sa diversité. Ça, c'est un autre manuscrit, c'est pas le même style. Le vin qu'on goûte, alors là, avec les barriques, etc. Vin rouge. Alors, c'est d'ailleurs, ça vient du monde arabe et musulman, hein, mais vous avez, c'est assez drôle, parce que vous allez voir, il y a les tripes, il y a la charcuterie, il y a le cochon, il y a le vin, voilà, il y a des choses qui sont... Parce que, on voit bien, on verra même que dans dans la traduction latine et un peu nordique, on voit même des palmiers et des cocotiers, etc. Donc on voit bien que ça vient des mondes oriental et Moyen-Orient. Hein. Là, le lard, justement. Ici, le poisson mariné, parce qu'il y a poisson mariné, poisson pêché, il y a tout, tout est... Là, c'est l'aliment, la rate. C'est que tous les abats sont... Alors, et alors, vous avez l'image, vous avez aussi le texte, évidemment. Alors là, là les canards et les oies, les animaux. Là, le... alors, ça aussi, vous avez les climats. Et ça, c'est, vous allez voir, c'est assez unique. En général, dans la peinture, on voit très peu le climat jusqu'au 15e, 16e siècle. On voit, par exemple, vous n'avez jamais de pluie. Il faudra attendre presque Bruegel pour voir la neige et les tempêtes, etc. Mais c'est au 16e siècle. Et si vous voulez, là, vous avez aussi ben, le climat. Hein. Il n'y a pas que le signe du zodiaque et les saisons et les travaux des champs. Vous avez aussi cette sensation physique de vivre le climat, c'est-à-dire vivre l'atmosphère. Le froid, le chaud, etc. Donc là, ici, le climat, et vous allez voir aussi certains... Et la pluie, ici. Et la femme, ici, c'est extraordinaire. La pluie qui tombe, et avec le petit gamin qui s'abrite, et elle, vite, vite, on rentre à la maison. C'est quelque chose de très touchant, très humain, très quotidien, qui est... Et là, comment est-ce qu'on... Voilà, et vite, 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 on se dépêche, et tout d'un coup, vous avez même les gouttières qui dégoulinent sur le seau, etc., les gargouilles, et là, encore des informations remarquables sur la pluie. La neige extraordinaire, une bagarre de boules de neige entre l'homme et la femme. Et donc, quelque chose de sympa, rigolo, on s'amuse, là encore, une sorte d'harmonie au sens strict. Et alors, ils ne sont pas très vécus, pas très vêtus, mais encore là, très touchants. Et là, on... Et alors, vous avez donc, on comprend de mieux en mieux le titre aussi. Là, des hommes qui se battent après avoir trop bu. Donc, dispute entre ivrognes. Donc, aussi, les abus, le vin, c'est bien. Mais tout à l'heure, ils étaient en train de le savourer. Là, ils en ont trop bu. Donc, ils se battent. Hein, ça, c'est intéressant. Là, vous avez des femmes en train de fabriquer des pâtes, des nouilles. Donc, c'est. Là, femme prenant son bain. Donc, avec les éponges de savon, la bassine qui est mise sur les sortes de poutres pour évacuer l'eau, etc. Là, vous avez, on retrouve alors, encore la mandragore, ici marchand de beurre, la marchand de sel, vêtements de laine, vêtements de soie, viande de mouton. Alors, ce qui est intéressant, là où c'est étonnant aussi, c'est qu'en fait, dans une seule image, on retrouve presque la tradition égyptienne de tout représenter d'un métier, avec toutes les phases. Abattage, découpage, vente, dépeçage, etc. C'est-à-dire qu'en fait, dans une seule image, vous avez à peu près toutes les étapes nécessaires. En ce sens-là, c'est très rare, parce que comme je vous dis, il n'y a pas de traité des professions artisanales. Là, on trouve presque des traités, puisque vous avez effectivement, ici, la façon de tuer le mouton, de le dépecer, de le débiter, et ensuite de débiter les gros morceaux, de le faire sécher, et d'en vendre les morceaux. Viande variée, alors là on voit des bovins, là encore, dépeçage, etc. Là, marchand de volaille, marchand d'huile d'olive, alors c'est là aussi où on voit bien que on vient du monde méditerranéen. Musicien, donc l'art aussi fait partie, etc., avec... Des orgues à souffler, portatives, le luth, etc. Là, alors ça c'est très bien, les pathologies. Vous avez des pathologies, par exemple les troubles du sommeil. Troubles du sommeil, donc en fait, il est agité, et en fait ce qu'on voit autour, c'est ce à quoi sans doute il rêve, et après vous allez voir la médication pour les troubles du sommeil, et on le voit avec son bonnet, alors il dort sans pyjama, c'est assez mignon. Là, les vomissements en pathologie, donc on ne sait pas pourquoi, mais on lui amène sans doute les... Là, vous avez sans doute en rouge... Les médicaments. Là, paysan vendangeant. Bon, alors là, on retrouve plus classiquement. Là, encore physiologie, trouble du sommeil et comment est-ce qu'on peut gérer le sommeil, etc. Là encore, la veille, c'est trouble du sommeil, donc c'est vraiment quelque chose de très. L'insomnie, qu'on appelle vigile, la veille. Là, le pressoir. Là, récolte de la nette. La récolte de bananes, c'est là que je vous disais. Récolte de bananes, pour trouver ça dans un manuscrit écrit en latin, c'est qu'on voit bien que ça vient de loin. Et là aussi, c'est une sorte de croisement culturel. Alors, on avait vu les traductions arabes, latin, grec, etc. Mais c'est marrant comment est-ce que dans Staquinum, on trouve cette idée-là. C'est récolte des cerises douces, récoltent des châtaignes. Et toujours, hommes et femmes ensemble, truc un peu cool, des dattes mûrissantes, des dattes aussi, hein, c'est pas... Et vous avez toutes les dattes possibles, les dattes mûres, les dattes mûrissantes, etc. Vous allez avoir, c'est très très précis. Les épinards, les figues, bah, il est tout seul, les grenades amères, les haricots, lentilles, les œufs de poule. Alors ça, c'est un style un peu différent. Là, les truffes. Mais le sénévé, donc on avait vu l'autre fois, c'est la moutarde. Hein. Là, la soupe. Alors après, vous avez la cuisine aussi. Donc vous avez les commerces, c'est aussi comment ben, la soupe de pois. Donc c'est prodigieux. Hein. Alors je continue, tout ça. Tisane d'orge. Alors je ne sais pas pourquoi il y avait de la tisane d'orge, etc. Alors vous avez vu aussi cette architecture gothique, sans doute un prince, hein, ou quelqu'un d'un peu riche qui a un châtelain. Mais on a vu qu'il n'y a pas que les châtelains qui sont représentés, mais même au niveau du vêtement, c'est pas évident de repérer vraiment si lui il a des poulaines. Hein, vous savez, alors, vous savez que ça c'est des chaussures qui étaient faites pour prouver qu'on n'a pas besoin de travailler normalement. On ne peut pas travailler avec des chaussures comme ça. Donc l'idée des poulaines, etc., c'est que plus elles étaient inconfortables, incommodes, plus ça prouvait qu'on n'avait vraiment pas besoin d'aller au champ, hein, d'aller travailler. Donc, un des signes, alors la dentelle aussi sur son vêtement, mais voilà, et puis il est quand même dans une architecture gothique très élaborée, hein, pour prouver qu'il s'agit d'un châtelain. Là, un couple dans un lit, alors ça c'est assez sympa aussi, c'est que tout à coup vous voyez que, voilà, ça fait aussi partie ben, de la vie, il s'est représenté avec, y compris le couple sous le drapé, ça c'est presque universel. Marchand de sucre candy, bon ça c'est encore autre chose, le foie, comme aliment, tempérament colérique, ça aussi, vous avez aussi les caractères, vous avez l'empathie, colérique, etc. Alors elle est abattue, parce que lui il est en train de se fâcher, donc vraiment pénible. Alors ils ont des chaussures pointues, donc même chez les nobles, il y a des là vous avez la bouillie d'orge, alors sans doute pour soigner quelque chose, parce que la personne est au lit. Quelqu'un lui amène le médicament. Là, couple goûtant de la scarole. Alors, il y a ça aussi, on peut cueillir, mais ça peut être sympa aussi de goûter ce truc. Et il soit assis sur un petit banc. Il devise. Il a une posture, regardez, il a une jambe repliée. On ne voit pas bien, mais l'homme a une jambe repliée sur le banc. Et regardez aussi comment la femme, le drapé de sa robe, révèle aussi l'anatomie. Donc, ce sont des vêtements qui ne font pas que cacher, ils révèlent aussi, vous avez une sensualité, une élégance. Donc, ce qui est valable pour les fruits de la nature, les animaux, vaut aussi pour les humains, c'est que les humains, bah, finalement, on peut aussi les montrer avec un certain plaisir. Alors, on est au XIVe siècle, on est quand même avant la grande Renaissance, mais on voit bien qu'on commence à avoir un intérêt, eh bien, pour... alors, vous avez aussi, alors là, dispute, un couple se disputant, et alors là, l'homme qui est après la bah, de sa femme, etc. Donc là, on est dans le cru. Hein, la fabrication du fromage blanc, fromage frais. Alors les pains, le pain azim aussi, donc on voit que pain azim, tradition juive, donc on a vu tradition sans doute musulmane, occidentale, chrétienne, juive, etc. Il y a quelque chose qui est au-delà. Hein, et ça aussi, c'est touchant dans ce manuscrit, dans ces manuscrits, c'est tout ça. Alors, on avait vu les boulangers déjà. Hein. Alors, je continue. Femmes cuisinant, et le damier en perspective. Là, des femmes devissant et nourrissant des paons, tout simplement, dans le jardin. Alors, le jardin, vous savez que c'est le jardin, théoriquement, c'est le paradis. Hein. La tradition chrétienne, Jésus apparaît à Marie-Madeleine en jardinier, parce qu'il va permettre de travailler la terre, alors que l'Ancien Testament c'est la forêt vierge un petit peu, c'est le bazar. Et quand Jésus apparaît ressuscité à Marie-Madeleine, en jardinier, c'est on va ordonner la terre, on va profiter de ce qui est donné, mais par le travail, on va là, etc. Donc cette idée du jardin et du bien-vivre, ordonner la nature par le travail, mais de façon un peu raisonnée, c'est quelque chose que l'on trouve et qui est propre en fait, y compris des traditions orientales ou chrétiennes. Les tapis orientaux sont des jardins. Hein. Donc, en fait, ça représente presque des jardins ordonnés. Alors là, justement, bouillie de froment, une personne âgée sans doute, qui ne peut plus manger que de la bouillie, on le voit traité par les autres. Alors là, voilà. C'est intéressant, ça c'est du XVe siècle, donc c'est presque contemporain. de Mohamed Ibn Ahmad al-Biruni. Biruni est très connu comme un poète, savant, cosmographe, etc. Hein, donc, mais là, cette fois-ci, au XVe siècle, dans les manuscrits musulmans, vous n'avez pas d'illustration. Hein, vous n'avez pas d'illustration, mais vous avez des... On voit la façon de ranger le savoir est assez remarquable là aussi dans la typographie, etc. Et là, vous voyez l'intelligence développée et l'art développé dans la calligraphie et la disposition pour présenter justement la mise en ordre du monde, hein, le travail sur l'écriture, toujours sur les cases. Et on avait ça déjà dans les premiers taquinum de Ibn al-Butlan. Donc ça, je continue. Alors vous avez quand même, on ne peut pas s'empêcher de mettre des petits éléments figuratifs, de l'arabesque à la limite, des rinceaux à la limite entre... Alors là, on voit très bien ce que je vous disais, le lien entre l'écriture et les rinceaux et les plantes. Du coup, on passe de l'un à l'autre assez subtilement et assez logiquement. Et donc, il y a toujours une tentation de revenir aux rinceaux et aux vrilles de la vigne, comme dirait Colette. Alors voilà, je passe. Alors je reviens, ça c'est un autre taquinum, hein, parce qu'en fait, il y a eu plusieurs versions, il n'y en a pas qu'un, une fois qu'il est, si vous voulez, quand il est connu. Alors, ils sont copiés. Alors là, vous allez voir que parfois aussi, la copie, c'est assez marrant, la façon dont les choses sont copiées. On voit très bien, en regardant les images, que quelqu'un a vu la première version, puisque une autre version va être très très proche. Hein. Alors là, ce sont des oiseaux et des pièges à oiseaux. Alors ça nous rapproche de ce qu'on verra plus tard sur la chasse. Vous avez le personnage caché dans les herbes, qui est en train de tirer le filet, il s'apprête à récupérer des pigeons. Là, la récolte, cette fois-ci, je ne sais plus ce que c'est, on dirait des épinards, sans doute. Alors, voilà la technique est un peu différente. Là, je ne sais plus ce que c'est non plus. Là, encore la mandragore. Et là, il se bouche les oreilles. La mandragore a une petite tête. Elle est attachée au chien, etc. Le chien, ensuite, va partir. Et quand elle va pousser des cris, ça fera fuir le chien. Le chien, il voudra partir et il va l'arracher. Et pendant ce temps-là, l'homme se prépare à se boucher. Il se bouche déjà les oreilles. Et on verra ça souvent. Là, encore la dispute. Donc, vous voyez, on va retrouver les mêmes... C'est vraiment triste. Alors, eux, par contre, ils ont aussi des grandes poulaines. Ceux qui se disputent, c'est vraiment...
Ouais.
Les nobles. Comment ?
Les grands
À un moment donné, on voyait les robes qui se croisaient, là, au
milieu. Ah oui, où elle lui marche dessus, ou je sais pas quoi. Donc, c'est très vivant aussi, parce qu'il y a les émotions, les sentiments, et au milieu, des aubergines. Là, le vin. Hein, donc, vous voyez, là, il y a quand même des variations. Mais toujours, homme, femme, complicité, là aussi. Des courgettes ou des courges. Là encore, les calebasses, oui. Là, vous avez les vêtements. Alors, vous vous souvenez quand on avait vu à Chartres, les vêtements, etc., aussi, ou les pains sur un bâton, il y avait cette idée aussi de on a des idées aussi des pratiques de disposition des boutiques et des échoppes. Là, on voit le petit tailleur aussi assis devant sa... On dit que les tailleurs étaient petits. Hein. Je dis ça, il y en avait dans ma famille. Donc... Mais accroupi, la légende du tailleur accroupi dans sa petite boutique, etc. C'est assez marrant parce qu'on retrouve des sortes d'invariants. Alors là aussi, la nourriture, etc. Et le gros chien qui veille. Là... Ah oui, celui-ci est pas mal parce que vous avez aussi... cet homme qui, dans le jardin, sans doute une déclaration d'amour dans le jardin. C'est-à-dire que hein, vous avez aussi tout. Vous avez la dispute, etc. Vous avez les personnes âgées, vous avez les couples reconstitués, vous avez les couples qui devisent, vous avez qui disputent. Et vous avez aussi, dans le jardin, devant une sorte de cactus, hein, ici, hein, eh bien, vous avez une déclaration. Hein, donc là, on a déjà vu celui-ci. Là, enfin, à un moment, il faut aussi quand même bêcher. Parce que ça ne pousse pas tout seul. Donc ça aussi, on va le voir. Et récolter. Hein, pour récolter, vous avez les outils pour récolter. Là, on trouve quelqu'un qui semble s'amuser avec les épis qui ont été moissonnés. Alors, juste un truc. Molero.com, c'est une sorte de... Parce que un de ces manuscrits, vous avez un facsimilé. Vous pouvez l'acheter, hein, vous commander, très beau facsimilé, grandeur nature, etc. Et Molero, c'est pour pas que ça soit recopié, c'est une sorte de filigrane, c'est ça, sur... Et là, vous voyez le singe aussi, hein, donc ça nous donne aussi une indication. Et autre indication du voyage, c'est que là, vous avez du latin, et là, c'est de l'allemand. Donc, ça donne aussi une indication précieuse sur la circulation... non seulement on a vu circulation des manuscrits, la question des langues, alors l'arabe savant et le latin savant, C'était des langues internationales. Mais la langue populaire, c'est quelque chose qui commence à se répandre à peu près au XIIIe, XIVe siècle. Dante, par exemple, écrit l'enfer, purgatoire, etc., en toscan. Hein, c'est un des premiers à écrire vraiment en langue populaire. C'est des choses qu'on va voir aussi dans les manuscrits, c'est qu'on va commencer à voir les langues, l'anglais, le français, le vieux français, l'allemand, l'espagnol, c'est un peu plus compliqué, ça viendra plus tard, mais si vous voulez, on commence à avoir des langues locales, et l'italien, évidemment. Ça montre aussi la diffusion, y compris de plus en plus populaire. Si on écrit en langue locale, c'est que le manuscrit commence à toucher des gens qui ne sont pas forcément des lettrés qui ne connaissent que le latin. Enfin, non, les lettrés connaissent le latin et leur langue locale, mais ceux qui sont moins lettrés ne connaissent que leur langue régionale ou nationale. Donc, si vous voulez, le fait de trouver des traductions dans des langues régionales prouve qu'il commence à y avoir une diffusion, y compris de ces manuscrits. Alors, la diffusion des manuscrits, leur popularité s'explique aussi parce que le papier est moins cher, parce qu'à partir du XIIIe siècle, il y a des moulins à papier, et on commence à en faire plus. Donc, si vous voulez, on peut copier, d'où d'ailleurs l'idée que le manuscrit n'est plus uniquement lié forcément à des choses très sacrées, mais peut commencer à traiter de choses, on va dire, plus prosaïques, plus profanes. Là, on le voit, alors, ils sont en train, alors, est-ce des habits, est-ce qu'ils ont trop chaud, est-ce qu'ils vont se baigner, ou autre chose, dans le jardin, tout seul, on ne sait pas, il faudrait que je lise ici le texte, ça peut être, alors là aussi, grimper dans l'arbre, cueillir les cerises, s'entraider, il y a, en fait, c'est bête, alors encore les châtaignes, c'est-à-dire si on les grille sur place, et on les mange, là aussi, on s'échange, on se prête, on se cueille. Il y a cette idée aussi de complicité dans le jardin. Là, elle ferme la porte du jardin. Alors, jardin, à l'origine, c'est regarder aussi, c'est hors tout, c'est l'idée d'un endroit limité, clos. Hein. Donc, l'idée de l'enclos, c'est quelque chose que l'on voit ici. Alors, on retrouve encore des calebasses et des courges. Là, des poireaux. Ou des noms, des panais ou des poireaux, je ne sais pas. Là, je sais pas. Là, des truffes. Alors, vous voyez, on est très proche de l'image précédente des truffes. Là, des je sais pas quoi. Là, ils se font sentir mutuellement les trucs, apparemment. Là encore, la mandragore. Alors, vous voyez, elle est plus... Alors là, on le voit bien. Ils poussent les oreilles. C'est très clair. Alors, la mandragore, c'est intéressant parce que vraiment, on la repère tout le temps. Là, celle-ci, elle est toute seule, il faut se baisser, la terre est basse quand même. Là, encore un magasin, sans doute, une boutique de, je crois, fromage et violence. Là, quand même, l'attrait des animaux, enfin, c'est un peu plus rare, mais on le voit. Et encore les bergers, alors, plus rare, avec les sangliers pas loin. Là, eh bien, alors, vous avez un chameau. C'est la langue de bœuf et de chameau. Là encore, c'est drôle, parce que c'est traduit en allemand, on voit pas beaucoup de chameaux en Allemagne, etc. Donc, c'est très touchant de voir aussi que, même traduit dans les langues nordiques, ou germaniques, ou latines, eh bien, on conserve les bananes, les dattes, les chameaux, parce que c'est un tout, et donc c'est la connaissance de son environnement, mais y compris, et c'est là où, quelque part, même le Ibn al-Butlan se relie à des manuscrits qui étaient populaires, c'était le livre de description du monde ou le livre des merveilles du monde. C'est quelque chose qu'on va trouver dans la tradition gréco-romaine, turque, etc. Il y a des livres des merveilles du monde qui décrivent le monde dans sa diversité. Donc, c'est aussi, il y a une part que chacun peut constater, et puis il y a une part de, alors pas de légende, mais de on-dit, qui évoque le voyage. Donc, derrière le manuscrit, il y a aussi quand même le voyage et les ailleurs. Alors parfois, c'est assez drôle, dans les romans d'Alexandre, on va vers des populations humaines qui sont un peu bizarres, avec des grands pieds, etc. Et des monopodes, là, qui ont un seul pied, etc. Mais cette idée de trouver d'autres cultures, d'autres pratiques, voilà. Alors ça, c'est une femme qui en colère, cette fois-ci, c'est la femme qui est en colère, alors avec, y compris, elle se déchire sa robe, hein, donc une sorte de crise que plus tard on appellera hystérie, donc la solaire. Là encore des hommes en train de boire. Là le sommeil, quelqu'un qui est en train de faire de la musique pour garder le sommeil. Là au coin du feu, alors là on se raconte des histoires, etc. Là un couple en train de papoter. Alors ça c'est même le bonheur là. C'est marqué bonheur, l'inscription, les oiseaux, le jardin, la vie harmonieuse. Là, c'est un autre manuscrit, récolte des courges. Pastèque. Ouais, pastèque, ça c'est autre chose. Donc, et battre le blé. Récolter, là, je sais pas quoi. Avec un petit lièvre. Là, on avait déjà vu cette scène-là. Les vendanges, le pain, et la pluie encore, vous voyez, c'est toujours la pluie, donc on va retrouver les éléments de base, la femme, l'enfant et la maison, on s'abrite très vite. Hein? Alors là, il n'y a plus les gouttières et la pluie n'est pas représentée, parce que c'est très rare de voir la pluie représentée, mais c'est assez, assez touchant. Encore le pain, alors ça c'est un autre, là le vent, alors ça c'est aussi très rare, hein? Mais alors là, on voit bien qu'il y a la sensation d'être vraiment physique du monde et de l'environnement, se retrouve très, très clairement. Alors là, c'est juste un extrait, hein, parce que je... Et là, ensuite, si on l'a vu, parce que... Ça aussi. Et alors voilà ce que ça donne, voilà le facsimile, mm-hmm. Voilà ce que ça donne, mais... C'est, alors, vous voyez, c'est vraiment, c'est une somme. Hein. Là, je vous ai donné juste un exemple, je ne vais pas tout montrer. Il y a une somme sur après tous les savoirs, donc c'est... Mais au-delà du savoir, il y a vraiment un traité du savoir-vivre. Mais qui concerne aussi toutes les classes sociales, en fait. Toutes les classes sociales, sans, semble-t-il, de hiérarchie, et y compris ni entre hommes et femmes. Et ça, c'est assez étonnant, parce qu'on a toujours cette impression, enfin, fausse, vraie certainement, mais en tout cas ici, dans ce jardin, et par rapport à cette idée de bien vivre, il n'y a pas de hiérarchie, il y a égalité, il y a même complicité, échange, etc., et à tous les moments de la vie. Et pas uniquement dans le jardin, y compris dans la ville, dans la cité, et même dans l'intimité. Et là, vous avez quelque chose vraiment de très moderne, hélas, c'est quelque chose sur lequel il faut revenir en permanence. Alors, ce que... Attendez, parce que... Ah, bah, voilà. À propos justement des femmes, et c'est pas rien, parce qu'au XVe siècle, vous allez avoir un taquinus qui est dit le taquinus lombard, c'est-à-dire on va reprendre exactement le même contenu. Il est dédié au roi de, je ne sais plus quel roi de Naples, je crois, 15e siècle, mais cette fois-ci, il n'y a plus aucune femme. C'est-à-dire que vous avez en fait, bizarrement, ce qu'on croit à la Renaissance, on dit à la Renaissance, c'est super, mais à la Renaissance, en fait, ce qui semble, c'est une théorie, enfin c'est pas une théorie, c'est des hypothèses. L'art d'abord devient moins populaire, parce que l'art quitte les centres des villes, les cathédrales, etc., pour aller surtout dans les châteaux, auprès des princes et des nobles. Un art ici, une pratique qui donne une grande place aux femmes, ne serait-ce de manière peut-être indirecte, mais Notre-Dame, Marie-Madeleine, dans les cathédrales, etc. Dans le taquinum aussi, on voit que dans la tradition médiévale, vous avez ici, de manière très très claire, un échange, etc. À la Renaissance, on va dire que ça va être de plus en plus genré. Plus, et en fait, cet humanisme-là, il y a un côté humaniste à la Renaissance, mais il y a un côté genré, sexiste, presque de plus en plus important. Chose étrange. Par exemple, ce taquinum, ou taquinus, je ne sais pas exactement. Eh bien, on va le voir là, il est très beau. C'est vraiment un magnifique. Alors là, il y a 400 illustrations, c'est un truc incroyable. Mais cette fois-ci, vous avez les plantes, vous avez le texte, vous avez les jardins. Mais il n'y a quasiment plus ni paysans, ni femmes. Et alors, il est dédié au prince. Alors, si, il a juste une femme toute seule, mais vous avez très, très rarement hommes et femmes ensemble. Alors, on voit les écrevisses avec les plantes des marais. On va retrouver des plantes, etc., que l'on trouve. Ici, vous avez encore des petites silhouettes. Alors, vous retrouvez même la mandragore avec le chien. Hein, ça, c'est un classique. Alors, vous retrouvez... C'est marrant, parce qu'on retrouve des trucs qui étaient dans les herbiers. Hein, mais c'est vraiment le texte du taquinum sanitatis. Hein. Là, vous avez alors une autruche. Hein.
C'est pas une femme,
Non, c'était un homme, ça, en fait. C'est un homme qui a chaud. Alors, sans doute que ça désigne les pays chauds, l'autruche, l'Afrique, la chaleur, etc. Hein. Avec quelqu'un qui est en train de l'éventer. Et ce taquinum, ou taquinus lombard, c'est vraiment fin 14e, début 15e. Et vous voyez là, alors bah, vous avez un pauvre ici qui est en train de récolter des trucs, mais. Et voilà. Alors, chose, et j'ai regardé toutes les images, la différence est flagrante. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une intention très très claire d'enlever pour le prince l'idée qu'il puisse y avoir une sagesse populaire. non sexiste. Et là, on voit l'établissement d'un pouvoir qui se met en place de façon assez claire. Alors, en parallèle, de façon assez intéressante aussi, j'ai fait un petit chapitre qui s'appelle « Vivre ». Justement, c'est que la question de la vie quotidienne, comment est-ce qu'on la retrouve dans les manuscrits ou dans les œuvres d'art, à peu près, voilà, on va dire, avant la Renaissance. Alors, vous avez, pas que ces manuscrits, vous avez par exemple ce qu'on appelle des livres d'heures, ou même des livres parfois de prières. On verra les livres d'heures du duc de Berry, les livres de prières, etc., dans lesquels on va retrouver parfois des textes religieux et des illustrations qui évoquent quand même les saisons ou la nature. Là, on voit par exemple, ils partent à la chasse, mais c'est l'occasion de faire une sorte de volière avec une multitude d'oiseaux. Hein, donc c'est de Coccarelli, traiter des sept vices et vertus, etc. Et là, des gens qui partent à la chasse. Là encore, alors, c'est toujours le même. Bon, il est un peu plus usé. Mais sur les côtés, vous avez effectivement une sorte de... Si vous regardez bien, là, vous avez une série de scènes qui évoquent et qui sont assez proches de ce que l'on a vu précédemment. Alors, non, ça n'a rien à voir, en fait. C'est des illustrations de Dante. Des illustrations de Dante qui, donc, de la même période, et là, c'est l'enfer. Je ne voulais pas les mettre ici, c'est une erreur, mais... Enfin, c'est une erreur. Ouais. Alors, traité de faux-connerie. Donc, là encore, vous avez des... Donc, il n'y a pas que les manuscrits religieux. Hein. C'est là où on va se rendre compte qu'il y a une multitude de choses. Comme, par exemple, traité de faux-connerie. Alors, la faux-connerie, c'est quand même aussi une activité de chevalerie princière. Hein. Donc, c'est réservé à l'aristocratie. Donc, vous allez trouver un traité. Hein. Et alors, effectivement, vous avez des pratiques autour de la faux-connerie. Élever, nourrir, chasser, conduire, lancer le faucon, vers quel oiseau, et là vous avez vraiment quelque chose de très intéressant. Alors le traité de chasse, Gaston Phébus, qui est donc cet écrivain, poète, prince français, va à la fois écrire ses histoires. Alors c'est assez drôle, parce qu'il va se mettre, lui, presque comme héros. C'est un peu comme Guillaume de Machaut, le grand musicien, qui va se mettre presque au cœur de ses propres histoires. Donc vous avez aussi l'individu qui commence à arriver, y compris dans les manuscrits, et qui commence à raconter ses histoires ou à des textes personnalisés. Donc ça, c'est quand même assez typique de cette période-là. Alors, les traités de chasse de Gaston Phébus sont des traités extrêmement précieux. Là, je vais vous en montrer trois. Et ce qui est drôle, on voit très bien qu'ils ont circulé. Alors, la chasse, par contre, là, vous avez effectivement les animaux, la nature, la fabrication des pièges et les comportements. Mais alors ça, c'est quasiment exclusivement masculin, réservé à l'aristocratie, et normalement, la chasse, elle est entièrement protégée par, normalement, la religion. Vous avez d'ailleurs le traité du diable et le traité de Dieu. Hein, le diable est représenté par le sanglier et Dieu par un cerf. Donc vous avez une sorte de représentation très claire. Mais au niveau de l'imagerie, ils sont vraiment magnifiques. Et très très drôle ici, ces petits marcassins qui sortent des terriers, qui courent partout. C'est un manuscrit en noir et blanc. Hein? Alors là, il n'est pas d'une qualité extraordinaire quand je zoome. Hein? Là, vous avez donc les cerfs et les chevaux. Alors, il y a je crois quand même une page. Hein? Là, je vous ai fait un petit extrait. Là, vous avez la chasse et le dépecement, la meute qui est ici, le corps ici, et d'un coup, le dépeçage du cerf. Donc, on voit que autour de la chasse, là, vous avez des pièges à lapin ou à lièvre. Hein, comment est-ce qu'on va les guider, les amener par ici et ouvrir des trappes, etc. Alors, j'ai fait exprès de garder celui-là parce que vous verrez à plusieurs versions de la même scène. Là, vous avez les pièges à loup, je pense, avec un gigot dans un enclos et la trappe. Là, vous avez encore un piège à loup avec une sorte de labyrinthe ou un renard avec encore le petit mouton avec sa clochette et puis le gigot. Et donc, alors, là, je le montre aussi parce qu'on voit bien qu'on est à une période de transition entre la représentation issu du monde nordique où il n'y a pas de profondeur d'espace et le début d'une représentation en profondeur. Mais il ne maîtrise pas la perspective et c'est un peu à la mode égyptienne. C'est-à-dire que pour représenter le piège, on le représente vu de dessus, alors que les animaux ils sont vus de côté.
Ça, c'est le traité de la chasse de Gaston Phébus.
Ouais.
Mais moi, j'en ai en couleur.
Ah oui, j'en ai aussi.
Ah, d'accord.
Oui, il y a en noir et blanc, mais la version couleur, elle est plus tardive, je pense que c'est presque une colorisation de la version noir et blanc. Les versions noir et blanc. Et c'est ça qui est assez drôle, parce qu'il est très très beau, mais vous voyez aussi vous, les principes de représentation, la perspective n'est pas totalement maîtrisée, on est dans une sorte de représentation empirique de l'espace, et il faut, comme c'est un traité, il faut qu'il soit efficace. Là, par exemple, on a au contraire une perspective empirique, plus logique, mais pour représenter le cercle, là, je pense que c'est le renard. Là encore, les sangliers. Alors, sur les sangliers, il y en a plein. C'est très, très drôle. Tous les sangliers. Alors, ils sont magnifiques. Hein. Le modelé et le dégradé, ils sont très, très beaux. Hein. Là, un piège à sanglier, bouf, il tombe dans un trou. Là, vous avez les sangliers qu'on a poussés dans la rivière. Là, les sangliers qui sont chassés ici. Et les cerfs ou les chevreuils qui sont guidés vers des trappes. Et là, vous avez justement le fait que la chasse, elle est quand même bénie, ordonnée par le prince, etc. Là, les ours, ils sont super. Hein. Ils sont vraiment très, très mignons. Et toutes les pratiques, alors c'est ce que je vous dis, dans une seule scène, vous avez à peu près tous les comportements de l'ours possibles. Seul, en bande, la mère, l'allaitement, la famille, la façon dont ils sont plantigrades, etc. Alors ça, c'est un autre traité, je crois que c'est pas le même, fabrication des pièges. Alors ça, c'est extraordinaire au niveau des nœuds. Alors là, on retrouve, comme je dis, les Égyptiens, quand vous regardez les fresques égyptiennes, pour tous les métiers, toutes les activités sont dissociées dans un même espace. Et pour que ça soit comme un traité, faut quand même, c'est à la fois le plaisir de représenter, il y a une esthétique de la mise en page, mais il faut aussi que ça soit efficace comme un schéma, c'est-à-dire qu'il faut quand même qu'on reconnaisse à peu près tout. Donc il y a à peu près toutes les phases des pièges et des nœuds qui sont vraiment magnifiques au niveau du dessin. Là encore, la même scène, la bénédiction des meutes. Alors ça, c'est un traité de Henri de Ferrières. Hein. Ça, c'est la chasse à l'épervier, donc il n'y a pas que Phébus. Là, on voit la fabrication de pièges encore. Alors c'est assez compliqué, on est entre le schéma scientifique et là, comment on va attraper la loutre. Alors ça, c'est rigolo, la façon de sortir du cadre. Là, le dépeçage du cerf. Là, encore un piège avec des filets, des tensions d'arbres, on dirait quasiment du Robin des Bois. Là, la chasse aux lièvres. Là, vous retrouvez les mêmes systèmes de croisement. Là, vous avez justement la chasse et les commandements de Dieu avec le cerf. Et là, la chasse et les commandements du diable avec l'horrible sanglier. Là, vous avez la dispute des suppôts de Satan. Donc, je ne sais pas exactement ce que c'est. Là, les chasseurs faisant une halte. Et là encore, dans le traité de chasse, vous avez le côté, on va dire, chrétien quand même. Les divers... Alors, autour du traité de chasse, vous avez aussi, qui est intéressant, c'est une sorte de bestiaire. Voilà, attendez, je passe. Ah oui, attendez. Ça sera peut-être la prochaine fois. Je continue avec l'autre traité de chasse de Gaston Phébus, puis je reviendrai. Ah. Parce que j'ai mélangé avec d'autres trucs. Ça, on reviendra à Sarapion. Voilà. Je reviens à ça. Pour vous montrer les variations. C'est pas le même, mais c'est très très proche. Et c'est pas la même écriture. Là, c'est en lavis. Ce ne sont pas des grilles optiques. C'est du lavis, mais on trouve exactement les mêmes scènes. Donc on voit bien qu'il y a eu copie. Hein, on voit bien qu'il y a eu copie, puisqu'avec quelque chose de sans doute un peu plus récent au niveau de la représentation. Mais regardez, c'est exactement le même piège. Hein, et ça, c'est là aussi. Là aussi. Là encore. Mais c'est pas la même technique de représentation, puisque là, on est dans un lavis. Hein, un lavis.
Joli.
Avec peut-être plus d'élégance, plus d'aisance au niveau de la représentation anatomique, etc. Et pour faire plaisir à Martine, on va arriver vers le traité de chasse en couleur. Le voilà. Le voilà. Avec cette fois-ci. Alors vous voyez que le fond, le ciel, on ne sait toujours pas très bien qu'en faire. Donc il est comme. Et là, ça nous rapproche des vitraux, c'est-à-dire que les façons d'occuper l'espace, eh bien là, on va le remplir avec des petites mosaïques, etc. Alors là, les couleurs, les modelés, les effets naturalistes. On voit bien aussi l'importance presque de l'herbier ici, parce que tout d'un coup aussi, il y a une description très précise des plantes, qui est assez remarquable. Tu l'as en facsimilé, Martine?
Non, je l'ai. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce sont des ours, et que Gaston Phébus, il est dans l'Ariège.
Ah oui, en plus. Oui. Territoire des ours. Alors là, au niveau des chiens aussi, c'est remarquable. Alors là, on voit bien que c'est un manuscrit, on peut imaginer, très précieux. Non seulement il est illustré, mais il est enluminé avec des variations, etc., des lettrines. Là, ce n'est pas du tout un manuscrit, ni de Besace, ni même de Main, mais sans doute de Lutrèce, qui sort pas. Il sort pas. Et là, vous avez les blés. Et là, une représentation en perspective, en profondeur de la forêt. Avec la chasse. C'est vraiment un chef-d'œuvre. Et là, regardez, ce qui tout à l'heure était mis à plat commence à être mis en profondeur avec les effets de couleur et de modèle. Mais c'est exactement le même. Là encore, vous avez vu, ce qu'on a vu tout à l'heure, avec cette fois-ci, sans doute le bois, etc., absolument remarquable. Alors, eh ben, je crois que c'est bon, là, parce que j'arrive au... Ah non, voilà, oui, encore c'est le même, un sanglier qui tombe dans le trou, le petit piège. Attendez, juste ça, je vais voir.
Ah, oui. Il y a déjà
là, c'est pas transparent.
Une notion de perspective. Là.
Bien sûr, une notion de perspective qu'on a dans les plantes, dans les arbres, avec l'effet d'ombre et de lumière qui combine à la fois la représentation en plan et la représentation en profondeur. C'est très intéressant parce qu'on est vraiment à la frontière à cette période-là. Alors là, je termine là-dessus. On verra quelques traités de médecine et quelques autres herbiers la prochaine fois. Et puis les traductions, on va dire, en fresque de cette même problématique. Et puis voilà. Donc, moi, s'il y en a que ça intéresse, j'ai quasiment trois versions entières du traité de chasse. Et les Tacuinum Sanitatis, j'en ai aussi plusieurs. Alors, si vous voulez tout, parce qu'il y a le cours, mais je peux aussi vous montrer tout le... Vous copiez tout, si vous voulez. Il faut me le préciser dans ce cas-là, parce que je ne saurais pas. Mais si vous cherchez, vous aurez du mal à... Enfin, un peu, hein. Notamment... Moi j'y tenais beaucoup, mais ma reine.
Ça n'a pas de chance, c'est tous les deux ans que vous touchez. Si vous en avez toutes les deux fois, peut-être.
Ah oui, j'ai besoin de mettre à Stéphane. Ah oui. Mais éventuellement, si j'ai besoin d'être défendu.
Ah oui, oui.
Mais bon, il va bien, Stéphane ?
Oui, il va très bien, on est pas là.
Oh, d'accord. Salut. Bonjour. Oui, alors c'est par contre si vous avez une invitation pour que je puisse. Parce que sinon, il y a quelqu'un d'autre qui m'a mis. Ou alors attendez. Parce que là, ils ont mis. Attendez, c'est comment votre. Et c'est EDF ? Alors, est-ce que vous avez un stylo ? Dans ce cas-là, on va mettre. Je vais mettre EDF ici.
Merci.
Mais c'est pas les...
Très bien.
Ouais,
ouais.
Ouais,
c'est ça.
Ouais.
C'est intéressant.
Ah, bah oui,
très bien.
Mais elle va pas dire le contraire
de moi. Ah, mais non, c'est super. Ça fait dans la journée. De culture, oui. C'est marrant d'être dans la position d'élève.
Oui. À la semaine prochaine, bonne journée.
Non, pas du tout.
J'ai beaucoup de patrie.
Le nom est originel.
Et vous voulez quoi alors, le cours ou... Oui.